La suite du grand jury RTL Le Figaro LCI, invité Dominique de Villepin, ancien Premier ministre. Le débat est dirigé par Jean-Michel Apathy.
Nous sommes de retour dans le grand studio d'RTL. Nous allons aborder avec vous maintenant, Dominique de Villepin, la situation internationale. Il y a beaucoup de tensions, une actualité très fournie ces dernières semaines. Votre expertise dans ce domaine, évidemment, est liée à votre activité de ministre des Affaires étrangères et que vous avez été pendant plusieurs années. Le premier dossier, celui de l'Afghanistan. 10 soldats français ont trouvé la mort en Afghanistan. La France participe avec une force de maintien de l'ordre en Afghanistan à des opérations de sécurisation en Afghanistan. Et aujourd'hui, la question semble se poser. L'armée française doit-elle poursuivre sa mission là-bas, aussi loin? Pour quelles raisons? Quelle est votre opinion, Dominique de Villepin?
D'abord, la mort de nos 10 soldats, c'est une épreuve pour la nation tout entière. Et je pense, bien sûr, d'abord aux familles des victimes. Nous avons tous participé à cet hommage rendu par la nation au courage de nos soldats. Je crois qu'il est important de rappeler dans quelles circonstances nous avons été amenés à aller en Afghanistan. Au lendemain du 11 septembre 2001, il est apparu qu'un certain nombre de réseaux terroristes partaient de ce pays, du régime taliban, et la communauté internationale s'est mobilisée sur la base d'une coalition de volontaires avec un mandat des Nations Unies pour lutter contre le terrorisme dans ce pays et sécuriser la situation à Kaboul et participer à la reconstruction de ce pays. Voilà les missions qui nous ont été imparties. Un certain nombre d'évolutions ont été faites au fil des années, notamment en 2003, quand c'est l'OTAN, parce qu'il y avait d'énormes difficultés dans la coordination des différents groupes de volontaires, d'énormes difficultés dans la mise en place d'une direction stable pour conduire les opérations sur place, l'OTAN a été en charge de diriger ce système. Et malheureusement, en 2003, avec la guerre en Irak, l'effort qui avait été engagé en Afghanistan a été diverti de son objet principal, la lutte contre le terrorisme, et quelque part aussi obscurci. Obscurci parce que, à bien des égards, pour les populations locales, le message qui était adressé après l'Irak n'apparaissait pas avec la même force. Donc nous avons perdu peut-être de la concentration, perdu de la compréhension aussi dans la nature de l'opération qui a été engagée. Ce qui me paraît important aujourd'hui de rappeler, c'est la légitimité de l'action qui est menée en Afghanistan. C'est vrai que la lutte contre le terrorisme là-bas est justifiée. Et partir, se retirer au lendemain d'une opération aussi dramatique que celle que nous avons connue, ce serait le pire message que nous pourrions adresser aux terroristes, et ce serait sans doute aussi un message qui fragiliserait l'ensemble des participations françaises sur nos théâtres extérieurs. À partir du moment où on sait que la présence des troupes françaises est susceptible d'être modifiée par un drame de ce type, il est évident que les Français constitueraient une cible particulière. Néanmoins, il faut se poser les questions essentielles.
Lesquelles?
Et en particulier, la question des priorités de notre action en Afghanistan et de la durée de notre présence là-bas. Je fais partie de ceux, et nous avions engagé avec Jacques Chirac une réflexion sur la durée de nos missions sur les théâtres extérieurs, et nous avions souhaité alléger nos dispositifs, y compris en Afghanistan. Nous l'avons fait en 2007 en retirant nos opérations spéciales, parce que nous avons acquis la conviction qu'il fallait inscrire toute opération extérieure dans un calendrier. Au moment même où on intervient dans un pays, il faut se poser la question du retrait. Ne serait-ce que pour définir les bonnes stratégies qui, le moment venu, vont permettre ce retrait. Ce calendrier n'a pas évidemment à être public, mais il est nécessaire de se fixer des étapes, des objectifs, parce que plus le temps passe, plus la situation dans laquelle sont nos troupes, dans le cadre d'une intervention extérieure, devient difficile et fragile. Tout simplement parce que dans la durée, troupe étrangère dans un pays étranger devient ou risque de devenir ou être perçue comme une force d'occupation.
Depuis 7 ans, et
alors, c'est pour cela,
le sentiment général, c'est que les choses régressent
alors,
plutôt qu'elles ne progressent, donc on peut y être très longtemps.
J'ai cette conviction depuis longtemps que nous ne pouvons pas gagner militairement la guerre en Afghanistan. C'est un constat très important. Et nous avons, nous Français, dans ce domaine, je dirais, beaucoup plus d'expérience que d'autres. La guerre d'Espagne que je relate à l'époque napoléonienne, la campagne de Russie, la guerre d'Algérie, l'Indochine, nous ont instruits de la difficulté, voire de l'impossibilité de lutter contre une guérilla, dès lors que cette guérilla bénéficie d'un soutien croissant de la population.
Alors justement, parmi
et nous sommes malheureusement dans cette situation en Afghanistan.
Parmi les priorités, monsieur de Villepin, est-ce que, pensez pas que je marque bout sur une vision comptable des choses, hein. Bon, ça coûte 300 millions d'euros par an à la France. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire davantage en aide civile? Vous venez de le dire, on est dans une impasse militaire. Est-ce que l'une des façons les plus idéales de lutter contre le terrorisme dans un pays comme l'Afghanistan, ce ne serait pas d'aider davantage les populations en leur montrant moins des fusils et des tanks?
Alors,
Paul Kiles, l'ancien ministre de la
Défense. Non, mais vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs décisions à prendre sur le plan stratégique. La première, c'est que nous devons revenir à la conception initiale de lutte contre le terrorisme qui est très différente du concept qu'ont imposé les Américains avec la guerre d'Irak, de guerre contre le terrorisme, qui, je le dis avec franchise, est une absurdité. Guerre contre le terrorisme, ça suppose qu'on peut gagner militairement contre le terrorisme. Lutte contre le terrorisme, ça veut dire qu'on utilise tous les instruments qui peuvent nous permettre de gagner contre le terrorisme. Et en particulier, vous avez raison, instruments du renseignement, instruments de la coopération financière, tous ces éléments-là doivent nous permettre d'être plus efficaces. Or, nous n'avons pas assez utilisé l'ensemble de ces moyens. Prenons un exemple, l'Afghanistan. La corruption liée au trafic de drogue, plus de 90% de l'héroïne provient de ce pays, qui permet aux talibans d'acheter des armes. Voilà un moyen efficace où il faut agir beaucoup plus fort et qui bénéficie de complicité au sein du régime de M. Karzai. Il faut être beaucoup plus exigeant vis-à-vis du gouvernement afghan pour être capable de démanteler ces filières qui bénéficient aujourd'hui de complicité à très haut niveau. Deuxième exigence, donc une stratégie de lutte contre le terrorisme global. Deuxièmement, une stratégie régionale. Comment être efficace en Afghanistan dès lors qu'on n'intègre pas la situation du Pakistan? Et de ce point de vue-là, c'est vrai que nos pays, et en particulier les États-Unis, ont été coupables de soutenir un régime, parce qu'il était ami des Américains, celui de M. Musharraf, sans véritablement ouvrir les yeux sur une réalité, c'est qu'à bien des égards, le Pakistan soutient les talibans en Afghanistan, c'est notamment vrai à travers les services de renseignement, donc il y a des complicités qu'il faut couper. On ne peut pas se battre sur le territoire afghan avec des gens qui, par derrière, luttent contre nos soldats. Donc, l'exigence d'une véritable stratégie régionale. Merci. Troisièmement, oui, c'est la stratégie économique. Nous devons privilégier une stratégie de reconstruction, tout simplement parce que si nous voulons être efficaces, il faut que la population afghane se convainque que nous ne sommes pas des ennemis. Ça veut peut-être dire moins de troupes sur le terrain, davantage d'actions dans les provinces où nous pouvons le faire, parce que je ne suis pas naïf. Il y a des régions où c'est extrêmement difficile compte tenu de la sécurité. Et enfin, mettre en place une stratégie politique. Cette stratégie politique, elle a été insuffisante. Soutenir le régime de M. Karzai, ce n'est pas suffisant dès lors que ce régime n'est pas représentatif de ses forces et que nous nous retrouvons aujourd'hui à faire la guerre dans un pays avec une population qui soutient de plus en plus la rébellion des talibans. Et dans ces talibans, il y a à la fois les talibans fondamentalistes, terroristes, mais il y a aussi les talibans nationalistes qui, eux, veulent tout simplement rejeter un occupant extérieur. Trouvons les moyens et les clés d'une solution politique qui nous permettent d'agir de façon plus indirecte, d'établir ce calendrier de retrait de façon à ne pas nous enliser dans une guerre que nous ne pouvons pas gagner sur le terrain. Je crois qu'on ne doit pas demander à des militaires de se battre alors qu'ils ne disposent pas eux-mêmes de toutes les armes pour véritablement gagner.
Je vous comprends très bien sur la nécessité d'une stratégie politique, un peu moins bien sur le calendrier. Fixer un calendrier, c'est la meilleure indication à donner aux terroristes.
J'ai dit, M. Moujotte, que ce calendrier ne devait pas être public. Il est évident que nous devons, nous fixer des étapes. Prenons la situation de l'Irak, qui est très instructive. On apprend au détour de déclarations.
Les Américains ne sont pas en train, petit à petit, justement, de gagner, M. Villepin?
Non. Alors, ils ne sont certainement pas en train de gagner, mais ils sont certainement en train de partir. En tout cas, c'est le vœu de l'administration Bush. Ils ont découvert que, faute de pouvoir marquer des points réellement sur le terrain contre les différentes tribus, face à une violence qui ne cessait d'augmenter, il fallait employer une stratégie politique. Ils ont décidé d'acheter ce qui leur tirait dessus. Ça permet peut-être d'acheter la paix, ça ne permet certainement pas de stabiliser les choses sur le terrain. D'autant que le moment venu, quand ils seront partis, l'ensemble de ces forces ne manqueront pas d'en découdre. Donc, momentanément, ils ont néanmoins découvert la nécessité de se mettre dans une solution de retrait. Je crois qu'on ne peut pas défendre un peuple malgré lui. Je crois qu'il faut responsabiliser les acteurs que l'on soutient, et je crois que l'objectif central qui est le nôtre en Afghanistan, c'est pas la défense de la liberté et de la démocratie, la stratégie américaine en Irak a montré qu'imposer la démocratie était un leurre, c'est de lutter contre le terrorisme. Je crois qu'on peut lutter contre le terrorisme sans avoir nécessairement une implication aussi forte au sol dans l'ensemble du territoire afghan. Faisons en sorte de montrer dans les provinces où c'est possible que l'engagement de nos pays permet d'améliorer les choses. Il y a un exercice qui est nécessaire sur le plan de la pédagogie pour montrer que nous sommes soucieux d'améliorer la vie des gens, mais je pense qu'il faut éviter l'enlisement à tout prix.
Pour sortir de l'Afghanistan...
La Russie peut-être, Étienne ?
Juste plus généralement, avant d'arriver à la Russie, vous avez dit, c'est une conviction forte chez vous, nos principes structurent notre politique étrangère, l'indépendance et l'équilibre Est-Ouest, Nord-Sud. Est-ce qu'aujourd'hui, ces deux principes guident notre diplomatie ?
Alors, ils guident notre diplomatie, oui. Est-ce que la mise en pratique de ces principes est toujours observée ? C'est un exercice difficile. Vous savez, c'est comme la diplomatie, c'est comme l'art de la guerre. Tout est question d'application, d'exécution. C'est un exercice difficile.
L'exécution n'est pas très bonne. Aujourd'hui.
Non, l'exercice est difficile. Moi, je ne donne pas de leçons, monsieur Apathy, c'est pas mon rôle. Il est difficile.
Ça, c'est
évident. Et si nous sommes là pour en parler, c'est pour essayer de faire en sorte d'améliorer les choses et de voir là où les choses peuvent être améliorées. Donc, d'apporter une contribution, tout au moins, sur le plan de la réflexion stratégique. Il est évident qu'une bonne diplomatie française, c'est celle qui est constamment accroché à des principes. C'est celle où, justement, l'exercice d'application de la tactique diplomatique ne manque pas d'être en référence à ces principes. Prenons un exemple, puisque maintenant chacun s'emploie à le reconnaître. C'est vrai que dans la gestion de l'affaire chinoise, il eût sans doute mieux valu dire clairement les choses au début et s'y tenir. D'autres l'ont fait, la Grande-Bretagne, Madame Merkel, et le message est infiniment mieux compris par les Chinois. Dès lors qu'il y a oscillation, dès lors qu'il y a changement de pied, dès lors qu'il y a sentiment qu'il y a des marges de manœuvre, eh bien évidemment tout se concentre sur vous et la pression se fait encore plus forte et vous devenez le bouc émissaire. Ce qu'il faut éviter évidemment à tout prix. L'important, c'est le message que l'on passe, c'est le principe que l'on défend. Pour le reste, nous savons tous qu'il y a des résistances en matière internationale et que nos politiques, y compris en matière de droits de l'homme, ne sont pas des politiques faciles à défendre.
Pour rester sur l'exemple chinois, auriez-vous souhaité que le président de la République, au nom de la République française, reçoive le Dalai Lama qui était en France la semaine dernière ?
Je pense que dans le contexte extrêmement envenimé qui était celui des relations franco-chinoises, c'était difficile.
De recevoir le Dalai Lama.
Je pense qu'on aurait pu, il y a 6 mois, dire « j'irai à Pékin » et je recevrai dans un cadre privé le Dalai Lama. Les choses étaient claires, il suffisait après de les mettre en musique. À partir du moment où nous avons malheureusement été pris pour cible par les autorités chinoises, cela n'aurait pas manqué d'apparaître comme une nouvelle provocation.
Ça n'est pas tout à fait aussi clair, puisque le Dalai Lama lui-même dit qu'il n'a pas souhaité être reçu. On a quelquefois un peu de mal à le décrypter, ce
sens. C'est pour cela que je me garderais bien de faire un procès d'intention à quiconque. Je pense que tout cela relève davantage de la mauvaise polémique. Ce que je retiens, parce que ça c'est important pour les fois suivantes, c'est que le principe nous protège et des prises de position claires, initiales, permettent à la diplomatie française d'être mieux comprise. Je pense que cela fait partie des leçons. Moi, je tire des leçons. Je ne cherche pas à donner des leçons. Je tire des leçons parce que je crois que devant de telles difficultés, et nul n'ignore à quel point tout cela est difficile, il est important d'être guidé et des repères nous fortifient dans l'action.
Alors, sur la Russie et la crise géorgienne, un sommet européen va se tenir sur cette question. Que peut délivrer comme message l'Europe quand on voit que l'Europe est un nain militaire, qu'elle n'a toujours pas d'avion, par exemple, pour transporter ses troupes? Que peut faire l'Europe sinon gesticuler et rappeler Moscou à ses droits et à ses devoirs? Mais est-ce qu'un sommet européen comme celui-ci, celui qui va se tenir,
vous impressionne? Le sommet européen annoncé le 1er septembre à Bruxelles.
Le 1er septembre à Bruxelles.
C'est annoncé tout à l'heure.
Vous êtes injuste, monsieur Revel. Vous êtes injuste parce que la diplomatie européenne, incarnée dans le cas présent par le président de la République Nicolas Sarkozy, a eu un rôle crucial. Vous savez, on a toujours tendance à considérer que ce qui a été acquis, dans le fond, ne compte pas ou a été acquis facilement. Obtenir un cessez-le-feu dans les jours qui ont suivi, c'était le devoir de l'Europe, et en l'occurrence, c'est la France qui a porté cette exigence, et Nicolas Sarkozy a bien fait de se rendre à Moscou, bien fait de se rendre en Géorgie, et bien fait de se soucier de l'application rapide de ce cessez-le-feu. Alors, pour autant, le problème n'est pas réglé, mais qui pourrait penser qu'une crise de ce type va se régler en un jour ? C'est extrêmement difficile, parce que nous sommes là, dans une bataille de principes. Il y a d'un côté la défense de l'intégrité et la souveraineté d'un pays, la Géorgie. De l'autre côté, il y a la position russe qui considère que sa souveraineté, les minorités russes, que l'histoire ne font pas de l'Abkhazie et de la même façon pour l'enclave de l'Ossétie du Sud un véritable territoire géorgien. Donc nous sommes là dans une confrontation dure. Cette confrontation dure nécessite du temps, nécessite du dialogue et nécessite des mesures de confiance qui nous permettent peu à peu de rétablir le dialogue avec la Russie.
Mais quand vous écoutez les pays de l'Est aujourd'hui, la Moldavie qui a aussi en son sein une république séparatiste proche de Moscou, quand vous lisez des comptes rendus de la presse ukrainienne qui dit on a peur parce que la marine russe est au port dans le port de Sébastopol, les ex-satellites soviétiques ont une énorme crainte, c'est que la Géorgie ne soit qu'un terrain d'essai finalement pour Moscou.
Mais il nous faut gérer tout cela. Et de ce point de vue-là, le sommet européen est bienvenu parce que chacun voit bien les inquiétudes, les peurs, les réticences, voire même les critiques d'un certain nombre de ces pays, de la Pologne et d'autres. Il faut expliquer les priorités, définir et s'entendre sur des modalités d'action. Je pense d'ailleurs que le moment venu, il faudra aller au-delà d'une conférence européenne pour avoir une véritable conférence type CSCE, comme nous l'avons connu dans le passé, avec la Russie et les États-Unis, pour déterminer un modus vivendi. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut sortir de cette logique où chacun met de l'huile sur le feu. Quand vous avez les États-Unis qui signent avec la Pologne un accord de déploiement d'un bouclier antimissile sur le territoire polonais, il est évident que c'est perçu comme une agression par les Russes.
Il ne fallait pas le faire. Mais il fallait laisser les Polonais à leurs incertitudes.
Je pense qu'il faut gérer.
Vous pensez ?
Non, je pense qu'il faut bien évidemment répondre aux préoccupations polonaises, mais je vous rappelle que pour l'essentiel, ces préoccupations polonaises ne sont pas officiellement dirigées vers la Russie, mais dans le cas présent, vers l'Iran. Je pense qu'il faut gérer les choses dans le temps et qu'il est essentiel de rétablir une confiance qui est indispensable, c'est l'intérêt de tous. Nous voyons bien, par ailleurs, que dans cet imbroglio à la fois juridique, politique, il y a une donnée économique extrêmement lourde qui pèse toute cette région caucasienne constitue un enjeu très important sur le plan pétrolier et sur le plan gazier. Donc ce ne sont pas des choses qu'on peut traiter à la légère. Il faut prendre le temps de la négociation et bâtir peu à peu des mesures de confiance qui nous permettent de rétablir les choses.
Sur le plan des principes, comment pouvons-nous expliquer aux Russes, nous qui avons soutenu le Kosovo qui voulait être indépendant de la Serbie, qu'ils n'ont pas raison d'accepter de soutenir l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, qui demandent à être indépendants de la Géorgie. Deux poids, deux mesures.
Monsieur Boujol, je l'ai dit au moment de l'indépendance du Kosovo, et c'est bien pour cela que la vérité n'est pas un sens unique. Aujourd'hui, dans la politique russe et dans la psychologie russe, il y a la même inquiétude, le même sentiment d'humiliation que peuvent ressentir d'autres pays en face. Il faut prendre en compte l'ensemble de ces préoccupations et tourner vers l'avenir, tourner vers une relation qui soit au bénéfice de tous. L'Union européenne a de formidables atouts sur le plan économique, formidables atouts sur le plan stratégique. Faisons en sorte d'apporter une perspective supplémentaire aux Russes qui intéresse la Russie et ne lui donne pas le sentiment. Et je pense que de ce point de vue-là, la construction d'une logique de l'OTAN est à rebours de l'histoire. L'OTAN, alliance défensive, qui tente aujourd'hui à devenir un organisme global, voire à se substituer aux Nations Unies dans certains cas, ce n'est pas une bonne chose. Parce que cela perpétue justement ces clivages du temps de la guerre froide et qu'il est essentiel avec les Russes, avec l'ensemble de nos voisins, de sortir de cette logique.
Tout le monde a noté dans cette crise géorgienne, une certaine brutalité de l'armée russe. Et puisque vous parlez des principes, ne pensez-vous pas que vous-même, quand vous étiez à la tête de la diplomatie française, vous avez manqué de rappeler ces principes à Vladimir Poutine qui a fait faire à son armée des choses en Tchétchénie.
Alors,
qui était
Mathis,
très éloigné sans doute
trop
des principes dont
vous
réclamez. Vous
étiez préoccupé de la politique intérieure française et ne suivant pas assez la politique étrangère, parce que si vous l'aviez fait, vous sauriez que je suis le seul ministre des Affaires étrangères à m'être rendu à Moscou et à faire une conférence de presse quand j'étais ministre et à dire publiquement, officiellement à Moscou qu'il y avait en Tchétchénie une véritable guerre et que cette guerre était inacceptable.
C'était plus que ça, c'était de la torture du peuple tchétchène et Grozny rasé, ça n'était plus une guerre, c'était de la barbarie.
Voyez-vous,
vous le savez, Dominique de Villepin.
Oui, bien sûr, mais voyez-vous, monsieur Apathy, l'important dans les relations internationales, c'est de ne jamais oublier de se mettre à la place de l'autre. Vous parlez de torture. Vous êtes sensible à ce qui se passe en Tchétchénie, c'est bien normal, je le suis aussi. N'oublions pas que dans le regard des autres, ce Sud, ce qui se situe de l'autre côté de la planète et qui constitue aujourd'hui une part croissante, qu'est-ce qu'ils voient, eux ? Guantanamo, Abu Ghraib, les prisons secrètes.
Oui, mais monsieur, le président monsieur de la Apathy, République a décoré Vladimir Poutine
ce que je vous
à l'Élysée en 2005.
Et il a reçu, monsieur
Bush, sachant tout ce qui s'était passé.
Dis, monsieur,
vous comparez, vous mettez les deux sur le même plan ?
Je considère, parce que je voyage beaucoup, c'est une chance que j'ai, quand je me déplace dans le Golfe, quand je me déplace en Asie, quand je me déplace dans un certain nombre de pays, les images que l'on voit ne sont pas les mêmes que ceux que nous voyons. Et il est essentiel de regarder le monde, non pas en donneur de leçons, en permanence dans le domaine des droits de l'homme, en permanence dans le sens de la démocratie, mais de comprendre aussi la préoccupation des autres. Nous devons être exemplaires.
L'Europe occidentale n'a-t-elle pas été trop complaisante vis-à-vis de Vladimir Poutine ? C'est ça la question.
Monsieur,
est-ce qu'on n'a pas été trop complaisant avec Vladimir Poutine ?
Exemplaires, et nous ne le sommes pas toujours. Donc, faisons en sorte de ne pas avoir... Justement,
c'est vous qui disiez
que... Je vais vous en sortir un nouveau principe.
Une diplomatie devait être arrimée au principe.
Bien sûr, mais c'est bien pour ça que je n'ai jamais cédé la garde sur la Tchétchénie. Nous ne manquons pas, depuis des décennies, de crier en l'air sur la nécessité de l'indépendance de la Palestine. J'étais en Palestine il y a quelques semaines. Voilà un domaine, un dossier, dans lequel le droit international est extrêmement clair. Toutes les résolutions des Nations Unies disent qu'il faut construire un État palestinien. Et nous ne le faisons pas. Comment pensez-vous que c'est interprété dans les territoires palestiniens ? Est-ce que vous pensez qu'un certain nombre de mouvements, le Hezbollah, le Hamas, ne tirent pas profit de cette situation ? Je crois que quand on a le souci de la justice, on ne doit pas diviser ce sentiment de la justice. Et on doit à chacun rappeler cette exigence. Nous devons le faire vis-à-vis de l'ensemble des nations et nous devons l'appliquer à nous-mêmes.
Vous avez le même regard critique sur ce qui s'est passé au Rwanda, par exemple, puisqu'un rapport vient d'être publié, de plus en plus critique, sur l'action française dans ce pays.
Non, je crois que dans le dossier du Rwanda, et j'ai bien connu l'affaire rwandaise puisque j'étais directeur de cabinet d'Alain Juppé à cette époque, il ne faut pas tout mélanger. Dans l'affaire rwandaise, il s'est produit un drame, un génocide. Le seul pays au monde qui a pris le risque, je dis bien le risque, d'une intervention, et j'ai été parmi les premiers à plaider avec Alain Juppé dans le sens de cette intervention, c'est la France. Faut-il faire le procès du pays, de l'armée française, qui a pris le risque d'aller au Rwanda pour sauver des milliers de vies ? Alors je veux bien que sur un plan intellectuel, on mette tout d'équerre et que l'on mélange tout. Mais croyez-moi, j'ai suivi nuit et jour, pendant des semaines, la situation au Rwanda. Je me suis battu pour que l'on ferme la radio des Mille Collines. Je me suis battu pour que nous allions sauver des Rwandais dans des quartiers et demander à des soldats français d'aller les sauver dans des quartiers qui étaient menacés et menaçants. Je crois que il y a bien sûr un devoir de mémoire, il y a bien sûr une exigence de vérité, et moi je ne crains en aucun cas cet exercice-là. Mais, je crois qu'il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes. Quand les autorités rwandaises, parce qu'elles craignent une mise en cause judiciaire de la part de la justice française, prennent cette occasion pour faire un rapport et remettent les compteurs à zéro, je crois qu'elles jouent avec l'histoire. Cela n'est pas conforme à la vérité historique.
Étienne Oujotte.
Je ne vais pas vous demander si vous étiez citoyen américain, voteriez-vous Obama ou McCain.
Non,
vous ne me répondriez pas.
Ouais, exactement.
Ma question est différente. Du point de vue de l'intérêt des Européens, et des Français en particulier, c'est la politique proposée par McCain ou celle proposée par Obama qui est la plus souhaitable pour nous ?
Alors d'abord, les deux hommes ont des qualités, les deux hommes sont originaux, intéressants, et nous sommes dans une situation historique, je le disais, sans précédent, ça ne ressemble pas à ce que nous connaissions il y a 10 ou 20 ans, où le monde bascule avec cette émergence du Sud. Le fait d'avoir un président américain comme Obama, avec la sensibilité politique, l'histoire, l'itinéraire d'Obama à la tête des États-Unis, ce serait un changement dans la donne mondiale. La perception des États-Unis, pour le moins ternie au cours des dernières années par l'administration Bush, trouverait là l'occasion d'une modification des lignes sur le plan international, tout à fait considérable. Alors, pour ce qui est de la politique, il y a à boire et à manger dans les programmes des uns et des autres, et je n'adhère en rien à certains de ces éléments, y compris sur la politique qu'ils souhaitent mener en Afghanistan, dans le cas de M. Obama ou de M. McCain, aller préconiser d'augmenter les troupes en Afghanistan comme ils l'ont fait en Irak, je veux bien, mais je n'en vois pas aujourd'hui la nécessité. Donc je pense que c'est moins sur les programmes que je me situerais que sur ce message adressé au monde qui referait de l'Amérique une puissance neuve sur la scène internationale.
Donc vous êtes plutôt Obama quand même.
De ce point de vue, je pense que Obama apporterait davantage. Néanmoins, je connais bien les États-Unis, je sais qu'ils se détermineront d'abord sur des critères économiques, d'abord sur la situation intérieure américaine, et malheureusement, le regard qu'ils portent sur le monde est trop souvent éclairé par un esprit de mission qui leur a joué de mauvais tours au cours des dernières années.
On a appris au cœur de l'été que la justice française s'apprêtait à rendre un non-lieu dans l'affaire des frégates de Taïwan, et votre gouvernement, comme d'autres qui l'avaient précédé, a refusé de lever le secret défense, puisque visiblement l'administration fiscale connaît les destinataires de ces fameuses rétrocommissions, c'est tout de même 560 millions de dollars. Pourquoi à l'époque avez-vous refusé de lever le secret défense, Dominique de Villepin ?
Écoutez, la question ne m'a pas été posée directement. Néanmoins, j'assume pleinement la décision, tout simplement parce que... Non, parce que personnellement, je souhaite évidemment que toute la lumière soit faite.
Et j'aurais, ne de le
loin,
sera pas.
J'aurais de loin préféré, j'aurais de loin préféré que tout soit dit. Néanmoins, dans ce type d'affaires, il y a d'autres contraintes. Il y a des contraintes économiques, des contraintes industrielles. Il y a l'image de la France. Il y a le respect de la règle de droit telle qu'elle existe à un moment donné. Et on ne doit pas et on ne peut pas contrarier certains engagements de la France. La France a pris des engagements. On ne modifie pas, en fonction de telle et telle circonstance, les choses, et la parole de la France doit être respectée. C'est ce qui explique les décisions qui ont été prises successivement dans l'affaire des frégates.
Et donc des gens se sont enrichis illégalement, et personne ne leur demandera des comptes.
Malheureusement.
Je cite juste Dominique de Villepin pour terminer, puisque cette émission s'achève, un propos que vous avez tenu le 6 mai dernier, c'était lors d'un débat à l'Université Paris-Dauphine. Vous avez qualifié la presse écrite de pâté pour chat. En général, dites-vous, je lis la presse dans ma voiture. Heureusement que mes trajets se sont raccourcis, parce qu'au bout de 5 minutes, il n'y a plus rien à dire. On manque de nourriture. Alors c'est assez rare de voir des responsables politiques qui disent ce qu'ils pensent à propos de la presse et des journalistes.
Mais vous savez, je ne désespère pas, c'est pour ça que je continue à lire avec beaucoup d'avidité la presse française, mais c'est vrai que je déplore le manque d'intérêt de la presse nationale pour le monde et pour les situations du monde, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut comprendre et décrypter si l'on veut mieux comprendre ce qui se passe chez nous. Il faut partir du monde pour définir des politiques en France, et non pas l'inverse, tout en défendant nos principes, tout en défendant nos convictions, et tout en défendant un modèle auquel je suis profondément attaché. Donc, sortons de nos frontières, ouvrons, apprenons les langues étrangères, voyageons, donnons cette chance à nos enfants. C'est, je crois, aujourd'hui le plus grand privilège que l'on puisse avoir.
C'est le point de vue du Figaro, monsieur de Villepin, ça tombe bien.
Vous pourrez lire demain dans le Figaro, justement, des extraits de ce grand jury que vous avez écouté sur RTL et regardé sur LCI. Nous nous retrouvons dimanche prochain, même lieu, même heure. Bonsoir.